suivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Peuple algérien.
Cette semaine, la Suisse et la guerre d'Algérie.
Un accord général vient d'être conclu à la conférence d'Évian.
De Sétif à Évian, neutralité et engagement.
Pour que l'Algérie reste française.
L'Algérie n'était pas la France.
Les négociateurs suisses favorisaient les entretiens secrets.
Une pratique que je réprouve.
L'usage de la torture.
Mais comme vous ne voulez pas parler, je suis obligé de le faire.
57, il se passe quelque chose en Suisse.
Le procureur général de la Confédération s'est suicidé.
Les accords d'Évian ne sont pas appliqués parce qu'il y a l'OAS qui fait la guerre à tout va.
L'engagement de certains ressortissants suisses dans différents groupes de l'OAS.
Et je suis sûr.
Il y a des dissidents algériens qui ont pris le trésor du FLN et l'ont sorti des banques suisses.
Que les haines iront en s'effaçant.
Quel a été le rôle et l'engagement de la Suisse et des Suisses au cours de la guerre d'Algérie. Rôle et engagement multiples en fonction des opinions, des idées politiques, ou encore en fonction des informations qui parviennent de cette guerre non officielle, informations qui font découvrir que l'armée française a recours à la torture. L'engagement de la Suisse se fera sur le plan diplomatique, également sur le plan humanitaire. Un rôle mal connu, peu rappelé dans les manuels d'histoire, qui est l'objet à la fois de notre semaine et du prochain documentaire d'Histoire vivante.
Il y a 50 ans, le 18 mars 1962, ont été signés les accords d'Évian qui mirent fin à la guerre d'Algérie. L'un des épisodes les plus sanglants de la décolonisation. Nous allons profiter de cette traversée depuis Lausanne pour comprendre ce passé peu glorieux enfoui dans une amnésie collective. Beaucoup ignorent que la Suisse, en coulisses, a joué un rôle primordial dans la résolution du conflit entre la France et le peuple algérien. Il faut remonter à l'année 1850, en pleine colonisation de l'Algérie par la France, pour trouver les racines qui relient l'Algérie et la Suisse. Le rôle actif qu'a joué la Suisse pour la paix en Algérie est dû à l'engagement des autorités helvétiques et aussi à une opinion publique retournée. L'implication des Suissesses et des Suisses dans cette guerre est faite de petits gestes. Faire passer la frontière à un journal, éditer un livre interdit en France, cacher un militant, accueillir un insoumis. Le journaliste Charles-Henri Favreau s'est rapidement engagé pour favoriser les contacts entre les Français et les Algériens.
Je suis allé en Méditerranée pour en faire le tour sur le mode littéraire. Et bien sûr, la politique a surgi. Mon itinéraire m'a mené à Alger, c'était en 1952. J'ai été absolument médusé par ce que j'y ai vu, en particulier par l'embarquement des tirailleurs algériens pour l'Indochine. C'est bien symbolique que les Algériens aillent tuer du Vietnamien. Les contacts que j'avais noués, je les ai nourris et de ce fait, je suis devenu de plus en plus engagé dans cette aventure effrayante.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la question de l'or nazi et des fonds juifs en déshérence isole la diplomatie suisse. La guerre a affaibli les puissances coloniales qui n'ont plus les moyens de reprendre le contrôle de leurs colonies. Les empires se délitent. Sur fond de guerre froide, cette situation va permettre à la Suisse de retrouver une place dans la diplomatie mondiale grâce à une politique de neutralité active. Sa participation aux négociations entre la France et le FLN algérien sera l'un des hauts faits de cette politique.
Un extrait du nouveau documentaire d'Histoire vivante à découvrir dimanche prochain sur RTS2 sur le rôle de la Suisse pendant la guerre d'Algérie. Quelles auront été les relations en triangle entre l'Algérie, la France et la Suisse au cours de la guerre d'Algérie? Sachant qu'à l'intérieur de chacune des parties, les politiques sont divisées entre eux. Les populations, elles, le deviendront. Quant aux indépendantistes algériens, ils le seront également. État des lieux avec Marc Pernoud, historien, il travaille au département des affaires étrangères à Berne, ainsi que pour l'édition des documents diplomatiques suisses, document consultable en ligne sur Internet. Marc Pernoud.
Ce sont des relations complexes et triangulaires, au moins dans plusieurs directions. D'abord parce qu'il y a eu des Suisses qui ont émigré vers l'Algérie lors de la colonisation, qui s'y sont implantés, qui sont devenus, pour certains d'entre eux, même plus français que les Français. Et ensuite, vous avez des Algériens qui vivent en Suisse, notamment des étudiants. C'est quelques centaines d'étudiants et d'autres catégories professionnelles pendant la guerre d'Algérie. Donc vous avez une imbrication des pays qui est manifeste depuis le 19e siècle et qui s'affirme aussi pendant la guerre d'Algérie. On sait que l'insurrection du 1er novembre a été en partie organisée à Berne.
La Toussaint Rouge.
Voilà. Et pendant le mois de juillet 1954, les indépendantistes algériens s'étaient réunis très discrètement à Berne pour organiser ce qui sera le début de la guerre d'Algérie le 1er novembre.
Qu'est-ce qui leur fait choisir la Suisse ?
Alors ils ont à ce moment-là le problème de se réunir de manière discrète.
Quelque part.
Quelque part. D'échapper à la surveillance de la police française, donc la Suisse s'y prête bien. Et à ce moment-là, il y avait la Coupe du Monde de football et ils ont pensé que la police bernoise serait surtout occupée par la sécurité lors de cette grande rencontre sportive et ne se préoccuperait guère d'une dizaine d'Algériens qui séjourneraient dans les hôtels bernois et qui discuteraient de sujets peu connus de la police.
Mais je précise ma question, je vais dire par là, pourquoi franchir la Méditerranée pour se rencontrer ? Si ce sont des Algériens, pourquoi ne se rencontrent-ils pas quelque part en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc ?
Parce que plusieurs avaient déjà commencé à militer, en particulier depuis 1945, depuis la poussée indépendantiste qui a marqué la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Algérie.
Donc ils étaient en métropole.
Ils étaient en métropole, ou en Italie, ou en Allemagne. Donc il y avait des échanges et des déplacements qui se faisaient, non pas seulement sur le territoire de l'Algérie, mais dans toute la région au nord et au sud de la Méditerranée.
C'est donc à Berne qu'ils se rencontrent. Ils sont à ce moment-là combien ?
Là, ils sont une dizaine. Bon, il n'y a pas de...
Oui, pas de chiffres ronds ni de liste précise.
Mais il y avait notamment Ben Bella qui deviendra plus tard le premier président de la République algérienne en 1962. Et qui était un fan de football et qui était très frustré de devoir discuter de politique alors qu'il y avait de beaux matchs à observer.
Cette réunion échappe complètement à la surveillance de la police. Comment va-t-on plus tard en retrouver trace ?
Alors c'est plus tard que la police française écrit à la police suisse, écoutez, il semble qu'il s'est passé quelque chose en juillet 1954.
Donc ils ont eu des fuites.
Ils ont pu reconstituer, ils sont allés à ce moment-là dans les registres des hôtels bernois et ont remarqué qu'il y avait des noms algériens qui étaient inscrits à ce moment-là.
Alors plutôt que de prendre l'histoire au jour le jour, ce sur quoi on va principalement s'intéresser aujourd'hui avec vous pour avoir une sorte de paysage d'ensemble, c'est la nature des relations. Ces relations entre le triangle Suisse-France, Suisse-Algérie, Algérie-France n'est pas un triangle stable. La nature des relations va évoluer à la fois en fonction des événements, en fonction des personnes qui prennent à un moment ou à un autre la charge, la responsabilité ou qui doivent établir des contacts pour des pourparlers. Est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter déjà l'un des côtés de ce triangle, la nature de la relation, tiens, par exemple, entre la Suisse et la France. Elle va pas être stable, celle-là.
Alors c'est une relation qui est aussi compliquée parce que eh bien, en Suisse, vous avez plusieurs acteurs. Vous avez des journalistes qui s'intéressent beaucoup à l'Algérie, notamment Charles-Henri Favreau, qui, lui, dès 1952, est très bien informé et transmet toute série d'informations. D'autres acteurs marquent la relation franco-suisse, notamment dans le domaine économique par rapport à la construction européenne. La Suisse se tient à l'écart de la... du marché commun.
Elle se tient à l'écart et elle est plutôt tenue à l'écart également.
Voilà.
C'est donc un sentiment partagé.
Alors, il y a une certaine tension entre la France et la Suisse par rapport à la politique européenne, par rapport aussi aux problèmes bancaires et d'autres aspects. Ce qui fait que les relations ne sont pas simples. Au début, les diplomates suisses sont très prudents, n'interviennent pas dans l'affaire algérienne. Mais petit à petit, les choses évoluent. On voit que depuis 1956, à l'intérieur de son département, Max Petitpierre, le chef de la diplomatie de l'époque, considère qu'il n'y a au fond qu'une solution, c'est celle de l'indépendance pour l'Algérie. Mais il faudra attendre l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle et l'évolution de Gaulle lui-même pour que la politique suisse évolue aussi. Et en 1960, les Français favorisent des contacts avec les Algériens qui auront lieu à Melun, mais qui seront un échec. Et c'est au cours de l'hiver 1960-1961 que des contacts secrets sont d'abord établis et que le rôle d'Olivier Long, qui était un des responsables de la politique économique extérieure à l'époque, va être central pour nouer ces contacts, d'abord sur le plan secret et ensuite petit à petit public.
Quel est l'intérêt de la Suisse à cela?
Alors, c'est dans le contexte de la décolonisation au niveau mondial. Depuis 1955, c'est évidemment un mouvement qui concerne non seulement l'Algérie, mais toutes sortes d'autres pays en Afrique et en Asie. En Suisse, il y a des avis partagés et divergents. Ceux qui sont liés aux Suisses qui vivent en Algérie ou dans d'autres pays sont assez réticents à l'égard de la décolonisation, mais beaucoup d'autres personnalités et dirigeants considèrent que la Suisse, qui n'a pas participé directement à la colonisation militaire au XIXe siècle, peut se présenter aussi comme un pays sans passé colonial et donc avoir la possibilité d'avoir d'excellentes relations avec les nouveaux chefs d'État après la décolonisation. C'est évidemment une redistribution des cartes à l'échelle internationale et la Suisse, avec ses moyens, essaye de s'immiscer dans cette nouvelle configuration internationale pour défendre ses intérêts.
La France va-t-elle, de ce point de vue-là, comprendre l'intérêt de la Suisse? Est-ce qu'il va y avoir des tensions? Sur quel chapitre, sur quel secteur, ou peut-être entre quelle personne et quelle personne? Parce que parfois, c'est entre les gens que ça se situe, ces choses-là.
Alors, il y a différents problèmes qui vont apparaître. Par exemple, il est assez rapidement connu que les finances du FLN sont en partie gérées en Suisse, que quelques banques suisses contribuent ainsi à mettre à l'abri de la France les capitaux que les Algériens peuvent obtenir, que ce soit des Algériens qui vivent en France ou d'autres pays arabes qui soutiennent la cause de l'indépendance algérienne.
Que demande la France à cette occasion ?
Alors, il y a des déclarations du chef du gouvernement, Michel Debré, à l'époque, qui fustige les banques suisses qui profitent de la situation pour faire des affaires. Donc, là, il y a une pression qui s'exprime. Mais en même temps, les Suisses se rendent compte que les Français aussi ont aussi recours au système bancaire suisse et apprécient les prestations de la place financière suisse. Donc, ces critiques restent finalement assez modérées. D'autre part, il y a aussi des collaborations qui s'instaurent entre les polices des différents pays. Les polices échangent des informations et cela créera des problèmes, notamment avec les activités du procureur de la Confédération qui finira tragiquement parce qu'on se rendra compte qu'il a communiqué des informations à la France. C'est ce rôle de la Suisse qui est à la fois un lieu de rencontre, un lieu d'échange et un lieu où les gens peuvent venir et repartir. Tout cela fait que la Suisse a été impliquée de multiples manières dans le conflit qui aboutira à l'indépendance de l'Algérie.
Tayeb Boularouf, alias Pablo ou Mabrouk, l'un des 8 membres du comité de la Fédération de France du FLN. Traqué de près par les renseignements généraux, il réussit à passer clandestinement en Suisse en 1955. Il ouvre à Lausanne le bureau du Front de Libération Nationale. Cette présence renforce les réseaux de soutien au FLN en Suisse. En 1959, Tayeb Boularouf est expulsé. Dès 1960, il revient clandestinement sous la protection de la diplomatie suisse pour les négociations secrètes entre la France et l'Algérie. Il se révélera un brillant négociateur lors des accords d'Évian.
Concernant l'Algérie et la Suisse, est-ce que l'Algérie, qui elle-même est partagée, FLN d'un côté, MNA de l'autre, quelle relation la Suisse va entretenir avec ses deux partenaires? D'ailleurs, est-ce qu'elle entretient un rapport avec deux partenaires? Comment jongle-t-elle avec tout cela?
Alors la Suisse officielle, justement, va mettre plusieurs années à vraiment jouer un rôle actif. Ferhat Abbas, qui était le président du gouvernement provisoire de la République algérienne, venait en Suisse et a plusieurs fois proposé que la diplomatie suisse agisse. Et pendant plusieurs années, ça a été une attitude très réticente et prudente. Mais c'est quand la France a évolué, notamment les autorités gaullistes, que les Suisses ont accepté de jouer ce rôle. Et c'est un rôle qui était aussi lié au fait qu'il y avait des contacts personnels des deux côtés. Il y avait des gens qui avaient su créer un climat de confiance. Du côté français, Olivier Long, qui était donc le principal intermédiaire suisse, avait des relations amical avec Louis Jox, qui était un des ministres de Gaulle, avec Michel Debré également. Donc, il inspirait confiance aux Français et en même temps, il inspirait confiance aux Algériens, vu son rôle dans les négociations économiques internationales à Genève.
Marc Pernaud, vous présentez cela comme une demande faite à la Suisse. Est-ce intégralement une demande que les extérieurs, les partenaires extérieurs, France et Algérie, font à la Suisse? Est-ce que la Suisse, sans le demander, aimerait bien qu'on le lui demande?
Là, elle a attendu qu'on lui demande. Elle n'a pas pris d'initiative pour jouer un rôle de médiateur. Et c'est parce qu'il y a eu des contacts, d'abord sur le plan personnel, et puis ensuite qui sont devenus des contacts au niveau gouvernemental, que la Suisse a pu jouer ce rôle.
Mais sachant que sur le terrain, il y a attentats au pluriel, attentats multiples de tous les bords, on porte grande attention au risque à ouvrir ce dossier.
C'est assez compliqué parce que, bon, il y avait une francophilie qui faisait que certains étaient évidemment partisans de la politique du gouvernement français et puis considérer que l'indépendance ne devait pas être accordée.
Quel que soit leur bord politique, ces francophiles.
Voilà. Mais aussi, vous avez à un moment, quand vous avez le gouvernement Guy Mollet, donc qui est un gouvernement socialiste, une partie des socialistes suisses soutiennent le gouvernement Guy Mollet, même si le gouvernement Guy Mollet participe aussi à l'escalade et au renforcement des forces militaires en Algérie. Contrairement à la promesse qu'il avait faite en étant élu pour ramener la paix en Algérie, il va contribuer à prolonger la guerre d'une certaine manière. Donc à l'intérieur de la gauche, vous aviez aussi des réticences à soutenir le FLN. Et certains qui ont été particulièrement actifs à l'intérieur des partis de gauche l'ont fait souvent de leur propre initiative sans suivre des instructions de leur direction nationale. Donc c'est souvent des réseaux liés à des fortes personnalités qui ont été actifs. Et au niveau politique et gouvernemental, on voit la même chose. On voit que Max Petitpierre, à partir de 1959-60, est de plus en plus convaincu qu'il faut faire quelque chose et que la Suisse joue son rôle de neutralité active en participant à ces négociations, mais au sein notamment du département militaire, vous avez des réticences qui s'expriment avec plusieurs arguments. On dit, oui, il y a des risques liées aux attentats, on n'a pas les forces de police pour assurer la sécurité de ces délégations. Nous avons autre chose à faire en tant que Suisse que d'accueillir ces négociations internationales. Donc il y a un certain nombre de réticences qui s'expriment à plusieurs reprises.
Quand le dossier de la torture apparaît très tôt, dans le cours des événements, ça va changer les positions des uns et des autres en Suisse. Est-ce que les francophiles, est-ce que les Suisses d'Algérie, qui sont une communauté largement importante, on aura l'occasion de l'évoquer avec le chercheur Damien Caron cette semaine, est-ce que ceci, au moment où la torture est révélée, change d'opinion ou reste droit dans leurs bottes, pour adopter une formule désormais connue en politique?
Évidemment, le contexte de la torture, c'est que c'est dans le cadre d'une exacerbation des conflits et des violences. Et ceux qui étaient partisans du maintien du système colonial, même s'ils peuvent être révulsés par les informations sur la violence qui est imposée par les tortionnaires, disent « Ah oui, mais... »
Oui, mais
il y a d'autres tortures qui sont commises aussi par le FLN. Et si on obtient des informations, même si c'est avec la torture, et qu'on peut empêcher d'autres attentats, à ce moment-là, cela peut être compréhensible. Et donc,
Est-ce que ça fait débat dans la société?
Dans la société suisse, oui, il y a des débats dans les journaux, il y a des réseaux de solidarité avec les indépendantistes, mais aussi des réseaux de solidarité avec l'Algérie française qui sont actifs.
Marc Pernoud, il va falloir conclure. Portée et limite du rôle de la Suisse à la fin de la guerre d'Algérie, c'est votre dernier chapitre dans ce Politorbis numéro 31, paru en 2002 sur la Suisse et les accords d'Évian. Portée et limite du rôle de la Suisse, elle n'a pas joué un rôle si important que cela. Et pourtant un rôle central de par la présence physique d'une partie des acteurs sur le territoire.
Alors elle a joué un rôle central et le contexte a fait que, d'ailleurs, les négociations ont eu lieu à Évian et pas ailleurs, parce que l'échec des négociations en 1960 à Melun avait montré que les Algériens ne voulaient pas négocier sur le sol français. Et la solution qui a été trouvée du fait qu'ils résidaient en Suisse et qu'ils négociaient à Évian leur permettait de négocier dans des conditions qui étaient aussi acceptables pour le gouvernement français. Donc dans ce contexte-là, la Suisse a joué un rôle central, mais c'est pour des raisons géographiques, des raisons culturelles, pour des raisons qui tiennent aussi à l'histoire des relations entre la France, la Suisse et l'Algérie. Tout cela a créé un contexte qui a favorisé ce rôle de médiateur de la Suisse, mais c'est un rôle qui est resté dans certaines limites. Les limites, c'est que, par exemple, les négociateurs suisses favorisaient les entretiens secrets, les contacts entre les uns et les autres, mais ne siégeaient pas à la table officielle des négociations à Évian. Ils amenaient les délégués algériens à Évian et ensuite ils attendaient leur retour. Donc ce rôle est...
L'art de la discrétion.
Voilà, la discrétion et puis de se rendre utile aux uns et aux autres.
Mais alors, poussons un petit peu plus loin, mais essayez de me faire une réponse très courte. La Suisse, y a-t-elle gagné quoi que ce soit, je ne sais pas, au niveau économique, au niveau énergétique, au niveau diplomatique, économique, etc. Est-ce que la Suisse y a gagné quand même quelque chose, malgré la limite que vous nous dessinez de son rôle?
La Suisse, vis-à-vis des pays qui ont lutté pour la décolonisation, a eu un prestige international considérable en Afrique, en Asie. Après ça, disons, puisque c'était aussi un assez long processus qui s'est déroulé sur plusieurs mois, donc là, il y a eu un prestige de la Suisse qui est apparu effectivement comme un pays sans passé colonial, disons. On était très discret sur le fait qu'il y avait quand même eu de nombreux Suisses qui avaient participé à l'entreprise coloniale. Alors de ce point de vue-là, ça a été très favorable. Ce qui a été plus compliqué, c'est le fait qu'en Algérie même, ceux qui vont prendre le pouvoir dans l'Algérie indépendante n'étaient pas ceux qui ont négocié les accords d'Évian et étaient souvent des dirigeants qui étaient très réservés à l'égard du contenu des accords d'Évian. Ce qui fait que les relations entre la Suisse et l'Algérie ne vont pas être aussi bonnes qu'on l'avait espéré en 1962. Et il y a une série de problèmes qui vont apparaître au cours des années 60 et 70 et qui tiennent aussi au fait qu'une partie des militants algériens vont s'opposer aux nouvelles autorités algériennes et à ce moment-là vont venir se réfugier à nouveau en Suisse. Mais ça, c'est le début d'une autre histoire.
Dans un instant, notre second entretien du lundi en compagnie de François Bugnon pour l'action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre d'Algérie.
Cette semaine, la Suisse et la guerre d'Algérie. De Sétif à Évian, neutralité et engagement.
Une longue histoire, celle du CICR, s'écrit. Un des chapitres du volume de Budapest à Saïgon, 1956-1965, paru aux éditions Georg, a été rédigé par François Perret et François Bugnon, avec qui je me trouve aujourd'hui et que je remercie de nous recevoir. Vous parlez, François Bugnon, à l'occasion de l'épisode algérien, d'une nouvelle expérience sans antériorité concernant le CICR. Est-ce que vous pourriez peut-être en dire plus aux auditeurs qui seront forcément surpris par cette formulation et voudrais tout de suite en savoir plus.
Merci et merci d'être venu. Votre remarque est tout à fait exacte. La guerre d'Algérie en soi, par beaucoup d'aspects, innovait. Ce n'était pas la première guerre de libération nationale, il y en a eu bien avant. Mais par la nature du conflit, par sa durée, par, je dois dire aussi, sa dureté, cette guerre est devenue en quelque sorte un archétype des guerres de libération nationale. Et dans cette situation, le CICR s'est trouvé confronté à des problèmes nouveaux qu'il a fallu résoudre. J'en mentionnerai en tout cas trois. Le premier était la prise de contact avec un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français, confronté à une insurrection qu'il prétendait, dans un premier temps, réprimer uniquement par des moyens de police, par l'application de la loi pénale, vu que pour la France de 1954, selon la fameuse formule lancée au lendemain des attentats de la nuit de la Toussaint par le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, futur président de la République, l'Algérie, c'est la France. Donc, on ne peut pas imaginer de traiter en quelque sorte ce territoire comme autre chose qu'une partie de la nation française, d'une partie du territoire français. Et évidemment, on va traiter cette guerre comme une affaire purement intérieure et dans un premier temps à travers les moyens de police, les moyens de répression policière du droit pénal, même si, parallèlement à cela, la France va également, évidemment, engager son armée et des effectifs de plus en plus importants. Deuxième défi pour le CICR, ce sera, faut-il prendre contact avec l'insurrection? et une insurrection qui, à l'époque, aux yeux des Français, aux yeux du gouvernement français et aux yeux de l'opinion européenne, étaient évidemment des terroristes, des gens qu'on percevait dans un premier temps comme des terroristes, pour ne pas utiliser même le mot de criminel. Et puis, le troisième défi sera de conduire une action humanitaire dans une guerre tout à fait asymétrique. Donc, par la nature même du conflit, cela a amené le CICR à s'engager sur des voies nouvelles.
Entre le temps de la réflexion, la distance qui permet d'apprécier et de détailler, comme vous venez de le faire, ces points-là, et puis le moment de l'action, le moment où on s'y trouve et les choix à faire, comment cela va-t-il se traduire pour le CICR? Est-ce une découverte, j'ose dire, de jour en jour, de semaine en semaine, des différentes embûches et une adaptabilité? Est-ce que ça va occasionner pour le CICR une réflexion et surtout de nouveaux types d'actions qu'il n'avait pas, soit jusqu'alors entrepris, voire même jusque-là envisagées?
Alors, dans le cadre de la guerre d'Algérie, on va rencontrer l'une et l'autre facette. Il est intéressant de relever que, bien avant le début de la guerre d'Algérie, et je dirais même peu après la Deuxième Guerre mondiale, le CICR engage une réflexion sur son action en cas de conflit non international et sur le problème de la protection des détenus politiques, c'est-à-dire de personnes détenues dans leur propre pays, alors que traditionnellement, l'action du CICR se dirigeait vers des prisonniers de guerre ou des blessés aux mains de la puissance ennemie. Et le CICR avait notamment réuni deux conférences d'experts pour consulter des juristes, des spécialistes de différents pays sur ce type de questions. Donc je dirais en amont même de la guerre, il y a une réflexion qui fait que le CICR ne va pas se trouver totalement pris au dépourvu. Il a déjà certaines références qu'il va pouvoir utiliser dans son dialogue avec le gouvernement français. Mais dans le même temps, évidemment, le CICR va devoir s'adapter à une guerre qui évolue, qui change de forme, et donc va devoir se réorienter son action au fur et à mesure de l'évolution du conflit.
Je voudrais que notre pensée se tourne d'abord ce soir vers les victimes du cataclysme d'Orléansville. Aux Algériens qui m'écoutent, je voudrais d'abord affirmer la sympathie profonde et émue de la France entière. Le gouvernement, pour sa part, ne négligera rien pour secourir d'abord, pour soutenir et aider ensuite les victimes d'Orléansville, des villages et des douars environnants.
Quand on vous lit, François Bugnon, on voit que se dessinent, s'esquissent des différences de rapport suivant la période, voire même suivant les hommes. Dans un premier temps, entre la France et le CICR, il y a deux hommes majeurs qui comptent, qui jouent, et qui vont d'une certaine manière faciliter. Après, ça ne sera pas forcément toujours sur le même ton. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser ces épisodes-là aux auditeurs ?
Le CICR va être servi par une circonstance tout à fait fortuite, mais qui va jouer un rôle important dans la phase initiale du conflit et de l'action du CICR, même si c'est le genre de choses qu'il est difficile de bien documenter. Pourquoi ? Parce que le chef de délégation du CICR à Paris, et je rappelle que le CICR a maintenu une délégation à Paris depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le chef de cette délégation est à ce moment-là William Michel. Et William Michel se trouve être par alliance, parent du président du Conseil, donc du Premier ministre, Pierre Mendès-France. Ces deux hommes avaient épousé deux cousines germaines, mais deux cousines germaines qui se rencontraient très souvent, qui étaient en quelque sorte inséparables, à telle enseigne que on les a souvent prises pour des sœurs. Mais d'après le témoignage du fils de William Michel que j'ai rencontré, il s'agissait bien de deux cousines, et c'est aussi ce qui ressort des biographies de Pierre Mendès-France. Et Pierre Mendès-France, vous le savez, a été victime de persécutions sous le régime de Vichy, d'un jugement inique où il a été accusé de désertion, emprisonné, il a réussi à s'échapper, et que fait-il? Évidemment, il se dirige vers la seule frontière qui lui permet d'échapper aux autorités de Vichy, c'est-à-dire qu'il entre clandestinement en Suisse. Et chez qui va-t-il loger pendant ce séjour en Suisse? C'est précisément chez William Michel, et il y restera jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de rejoindre la direction de la résistance à Londres. Donc, ce sont deux hommes qui ont un passé commun et qui peuvent aborder la question. Selon le témoignage de M. Pierre Gaillard, qui a été vraiment la cheville ouvrière de l'action du CICR en Algérie, c'est à l'occasion d'une fête de famille qu'ils ont discuté, en marge, je dirais, d'une fête de famille, d'une éventuelle action du CICR. Et Mendès France, fin janvier 1955, donc trois mois après le début de l'insurrection, reçoit William Michel dans son bureau donc de Premier ministre. William Michel lui expose de façon détaillée le type d'action que le CICR peut entreprendre dans le type de situation que la France connaît alors, non seulement en Algérie, mais également au Maroc et en Tunisie, car la France exerce un protectorat sur ces deux pays, qui prendra fin en 1956. Et Pierre Mendès France lui dit, eh bien écoutez, c'est très bien, mettez-moi tout cela par écrit. Dans la nuit, William Michel prépare sa lettre, qui est remise le lendemain, et le surlendemain, Mendès France réagit positivement en disant « d'accord avec les visites, d'accord avec la transmission de secours, pas possible de vous transmettre les noms des captifs, car les listes évoluent tout le temps ». Donc, tout cela, la rapidité de la démarche, montre très certainement que cet entretien avait été préparé de façon informelle lors d'une rencontre, ce qui semble confirmer le témoignage de M. Pierre Gaillard.
Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que Pierre Mendès France n'échappe pas à la plupart de la pensée politique ou la pensée des politiques français à cette époque-là. L'Algérie doit rester française, sauf qu'on a affaire à un homme, et pas n'importe quel homme, qui est un homme qui sait que le dialogue est essentiel en politique. Malheureusement, Pierre Mendès France ne va pas rester, loin s'en faut, tout au long de la durée de la guerre en Algérie.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de Mendès France. J'ai étudié l'histoire de la guerre d'Algérie sur la base des archives du Comité international de la Croix-Rouge. Mais ce qui est certain, c'est un, que Pierre Mendès France était un homme politique avec une vision d'avenir, il l'a démontré par mille idées, mille aspects. Deuxièmement, c'est quand même le Premier ministre qui a mis fin à la guerre d'Indochine, qui a compris que la France était engagée dans une situation qui ne pouvait que la conduire dans une impasse, et l'épuiser dans une lutte inutile, et qui a au fond décidé de mettre fin à cette guerre, d'ouvrir des négociations, et ceci avant même la défaite de Dien Bien Phu.
Et les signatures ayant lieu à quelques kilomètres d'ici, faut-il le rappeler, aux plus jeunes?
Exact, c'était les accords mettant fin à la guerre d'Indochine ont été signés ici à Genève en 1954. C'est également un homme qui est conscient des tensions politiques en Afrique du Nord, car indépendamment de son activité politique, en tant qu'avocat, il a défendu notamment des jeunes Tunisiens appartenant au mouvement indépendantiste tunisien, ceux qui en vérité prépareront l'indépendance de la Tunisie. Donc, il est probable que si Mendès France était resté au pouvoir, qu'il aurait probablement cherché à éviter l'enlisement de la France dans une guerre épouvantable et une guerre qui allait ruiner le pays et le saigner, sans parler évidemment de l'Algérie elle-même. Mais malheureusement, quelques jours après cet entretien avec William Michel, il est victime d'une de ces cabales qui étaient traditionnelles sous la 4e République et son cabinet est renversé, sauf erreur de ma part, le 6 février. Et effectivement, la France va s'enliser dans cette guerre et finalement, ça entraînera aussi la fin de la 4e République.
Quel va être le nouveau partenaire, si j'ose dire, avec qui le CICR va-t-il discuter? Est-ce que là, les discussions plutôt, vont se dérouler facilement?
Alors, il est intéressant de relever que l'accord donné par Pierre Mendès France ne sera nullement remis en cause par les gouvernements qui lui succèdent. S'agit-il de Guy Mollet, s'agit-il d'Edgar Faure, peu importe. Ce qui est important, c'est que en France, il y avait cette conviction de la continuité de l'État. Un engagement avait été pris au nom de la France par le Premier ministre. Et même si ce Premier ministre est renversé quelques jours plus tard, cet engagement sera tenu. Donc sur la base de cet engagement, de cette acceptation des offres de services par Pierre Mendès France, le CICR va pouvoir envoyer des délégations pour visiter les internés, les captifs, aussi bien au Maroc qu'en Algérie.
Officiers, soldats des forces armées, vous êtes l'armée de la France, vous êtes les garants de la France en Algérie. Vous vous battez pour que l'Algérie demeure française.
Dans un premier temps, les Français sont tous, en un sens, ou disons dans une grande majorité, derrière la défense de l'intégrité du territoire national. Et l'Algérie, département français ou ensemble de départements français, est perçue comme faisant partie du territoire national. Et puis, la France va se diviser sur la poursuite de cette guerre. Et le point de fracture le plus sensible de cette division sera évidemment l'usage de la torture par les forces de sécurité. Pour lutter contre le terrorisme, les forces de police recourent à des méthodes d'interrogatoire qui impliquent des mauvais traitements. Ce n'était pas nouveau, malheureusement, et ce n'est pas propre à cette guerre-là non plus. Il faut le garder à l'esprit. Mais dans la France de ces années-là, ce débat va avoir un retentissement très profond. Et c'est un débat, il faut le rappeler, qui s'ouvre très rapidement après les attentats de la nuit de la Toussaint, puisque déjà en janvier-février 1955 apparaissent les premiers articles dénonçant la torture en Algérie, y compris à travers la voix d'un homme très respecté, l'écrivain François Mauriac. Et pour une partie de l'opinion française, l'idée que la police française ou l'armée, peu importe, mais que des gens agissant au nom de la République ont recours à des méthodes d'interrogatoire qui étaient celles que 15 ans auparavant on combattait dans le cadre de la résistance, cela était insupportable. Et d'ailleurs, le titre de ces articles mettant en cause la torture est révélateur. Votre Gestapo en Algérie est ce type-là de référence. Donc, on touche là à un débat extraordinairement sensible. Et que se passe-t-il? Le CICR oriente évidemment l'essentiel de son action sur les visites des lieux de détention, sur l'assistance aux captifs et la volonté de l'effort d'assurer aux captifs des conditions d'internement décentes. Or, lors de ces visites de lieux de détention, et je rappelle que le CICR avait négocié et obtenu le droit pour ses délégués de s'entretenir sans témoin avec les prisonniers, évidemment, les délégués vont apprendre, recueillir des révélations sur des méthodes d'interrogatoire, sur des cas de sévices, sur des cas de torture et sur des cas de disparition forcée. Et puis, évidemment, les détenus vont leur dire « c'est très bien d'être venu nous voir, mais vous savez, avant d'être interné dans ce camp, j'ai été dans tel ou tel poste de police, voilà ce qu'on m'a fait, voilà comment j'ai été traité ». Certains, d'ailleurs, présentant des cicatrices ou des marques physiques de mauvais traitement. Le CICR va relater ceci dans les rapports qui sont remis confidentiellement au gouvernement français. Et stupéfaction, le 5 janvier 1960, le grand quotidien Le Monde publie dans la une de son édition de ce jour-là des extraits des rapports de visite, la septième série de visites en Algérie, et des passages qui mettent le doigt sur des conditions de surpeuplement dans de nombreux camps et centres de détention, sur des conditions d'hygiène déplorables et surtout sur des sévices, des mauvais traitements. Le mot de torture est utilisé et sur des disparitions forcées.
Entretien sans témoin. Nous avons successivement des entretiens sans témoin avec les responsables de camps et de baraques, une douzaine chaque fois, des camps 0, 1 et 2. Leurs doléances sont dans l'ensemble identiques. Nous en rapportons ici l'essentiel. Les internés se plaignent avec véhémence de la discipline qui leur est appliquée. Ils signalent être parfois frappés par l'officier psychologue, le colonel P, et par certains surveillants. Ils se plaignent également d'être l'objet de sanctions fréquentes décidées arbitrairement par la direction du camp. Les internés déclarent que le colonel P exercerait des pressions sur eux pour les amener à travailler ou à se prêter à certains tests de l'action psychologique. Incident des 6 et 11 juin 1959. Les 6 et 11 juin de cette année, de graves incidents se sont produits au camp de Bossuet. Ceux-ci ont entraîné l'intervention réitérée dans le camp d'une unité de CRS venue d'Oran. La totalité des internés se plaignent d'avoir été frappés, mis à nu au cours de ces interventions. Des dégâts matériels importants en sont résultés dans les biens des hébergés. D'autre part, 7 internés auraient été blessés gravement. J'ai vu moi-même un blessé encore en traitement à l'infirmerie du camp 2. Sur l'origine de ces événements, les thèses des internés et celles de l'administration sont contradictoires. Selon les internés, ces incidents auraient été provoqués sciemment par le colonel P, officier psychologue, pour permettre une reprise en main du camp par les autorités. Extrait paru dans l'édition du journal Le Monde, le 5 janvier 1960.
On sait un peu l'origine des fuites, puisqu'on ne peut pas ne pas penser à des fuites, François Bugnon.
Alors, évidemment, il y a eu fuite, et le CICR s'est d'emblée extraordinairement inquiété des conséquences de ces fuites, non seulement pour son action en Algérie, mais partout ailleurs dans le monde, si on lui imputait la fuite. En vérité, le gouvernement français de l'époque savait qu'il n'arrivait pas à maintenir la confidentialité, vu que l'opinion était divisée, et même la classe politique, les hauts fonctionnaires étaient divisés. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur l'origine de cette fuite. Le ministre de la Justice à l'époque était M. Edmond Michelet. Lui-même était un ancien déporté. Il avait été déporté à Dachau, près de Munich. Et l'un de ses proches collaborateurs était en vérité l'un de ses compagnons de déportation, l'un de ses compagnons de captivité, M. Josselin. Et c'est apparemment ce collaborateur qui, ne pouvant supporter l'idée que la France avait recours à ce type de méthode en Algérie, qui a transmis une photocopie du 7e rapport, du rapport sur la 7e série de visites en Algérie au journal Le Monde, de même d'ailleurs qu'au journal Libération. Mais Libération, ce jour-là, a été censurée dans le sens où l'édition de Libération a été saisie. Et cette fuite a certainement contraint, ça n'a pas mis fin à la torture, soyons clairs, mais contraint quand même le gouvernement français à mettre un peu d'ordre dans les prisons, dans les centres d'interrogatoire en Algérie et mieux contrôler ses forces de sécurité. Le prix pour le CICR a été élevé car il faudra une année de négociations pour que le CICR puisse à nouveau envoyer des délégués visiter des lieux de détention en Algérie, le gouvernement français alléguant de la nécessité de réorganiser son système pénitentiaire et donc repoussant de nouvelles visites à l'achèvement de cette réorganisation.
Dernier point, François Bugnon, entre le CICR et Berne, Est-ce que le dialogue va être facile? Est-ce que l'action du CICR va être critiquée par moment ou pas? Ou au contraire, est-ce qu'on va laisser, est-ce que Berne va considérer que le CICR, au fond, dans cette action sur le terrain, apporte la preuve du bien fondé de la Suisse dans cet épisode douloureux entre la France et l'Algérie?
Alors, je n'ai trouvé aucune trace dans les archives du CICR d'une interférence de Berne avec la conduite de l'action du CICR. Même si la Suisse, pas dès l'origine de la guerre, dès le début de la guerre, mais en cours de route, la Suisse va se rendre compte qu'elle a un rôle à jouer par rapport à ce conflit. Pourquoi ? Eh bien parce que parmi les jeunes qui conduisent, qui dirigent l'insurrection algérienne, il y a des Algériens qui vivent en Suisse, soit en tant qu'exilés, réfugiés, soit en tant qu'étudiants, et qui évidemment participent à cette fébrilité visant à la création, cette effervescence visant à la création d'une Algérie indépendante.
Pour le CICR, la fin des opérations, le retrait et, dernier point également, l'expérience, le bilan.
Alors, la guerre prend fin avec, je dirais, la signature des accords d'Évian, mais ça met fin aux affrontements armés, ça ne fait pas fin évidemment aux conséquences. La guerre va avoir des conséquences tragiques. Et l'après-guerre également, avec le déracinement des populations françaises ou disons d'origine européenne d'Algérie. Le CICR va encore mener deux types d'actions après la conclusion des accords d'Évian, qui d'ailleurs mentionne le rôle du CICR comme en quelque sorte témoin de la libération des combattants. Le CICR va s'engager dans deux types d'actions, l'une sur la recherche de disparus, puisque l'on enregistre de nombreux disparus avec le soupçon que certains pourraient être encore détenus dans des prisons, dans des camps militaires, etc. Le CICR va envoyer une mission spéciale pour rechercher ces disparus. Et puis le CICR va essayer, peut-être un peu timidement, mais en tout cas dans des conditions très difficiles, de venir en aide à une catégorie qui va se trouver particulièrement vulnérable. Ce sont tous les auxiliaires que l'armée française a recrutés tout au long de cette lutte, les harkis, tous ces combattants algériens qui, au fond, seront restés fidèles à la France et qui vont se trouver considérés comme des traîtres au moment de la création d'une Algérie indépendante. Malheureusement, sur ce plan-là, le CICR ne rencontrera pas une très grande compréhension de la part des nouvelles autorités algériennes, même si au niveau du discours, on l'assure de tous les appuis. En vérité, cela ne se traduira pas par des possibilités d'action significatives, de telle sorte que quelques mois après l'indépendance de l'Algérie, le CICR décidera de mettre fin à son action.
Sentiment d'échec ?
Non, je ne crois pas que le CICR puisse dire qu'il a un sentiment d'échec globalement. Sentiment d'échec en ce qui concerne le sort des harkis, certainement, je pense qu'on ne peut pas le nier. Si on reprend l'action globale, je pense au contraire que le CICR a réussi à mener une action importante, appréciée aussi bien du côté français que de la part des nouvelles autorités algériennes, des autorités de l'Algérie indépendante. Et des liens se sont également noués. Le premier président de la République algérienne, c'est Ahmed Ben Bella. Et Ben Bella était dans l'avion qui est arraisonné au retour de Rabat en 1956-57, quelque chose comme cela. Il va être détenu en France métropolitaine pendant longtemps et visité régulièrement par les délégués du CICR. Donc, les occasions de nouer des contacts ont été réelles, et cela vaut pour également d'autres des chefs historiques de l'insurrection algérienne qui deviendront bien sûr les dirigeants ou parmi au nombre des dirigeants de l'Algérie indépendante. Et puis, vous m'avez posé la question des enseignements. Certainement, la guerre d'Algérie sert d'archétype des guerres de libération nationale et les modes d'action que le CICR a développé en Algérie serviront également de modèle lors de guerres ultérieures, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie. Et également ce statut ad hoc créé pour les internés militaires jouera un rôle important dans la négociation des protocoles additionnels et notamment l'adoption de l'article 44 du premier protocole additionnel sur les combattants capturés lors de guerres insurrectionnelles.
Demain, début de notre semaine consacrée à la relation entre la Suisse et la guerre d'Algérie, cette semaine est réalisée par Jean-Philippe Zwallen.
Vous a été présenté par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jean-Philippe Zwallen et la voix de Laurent Bourdon. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission au 026 323 24 24. Vous écoutez La Première et il est 21h.